Vous êtes sur RTL.
Place à l'info RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Alors que Jean Castex va attaquer sa énième conférence de presse du jeudi, il est temps de faire le bilan du premier confinement au printemps dernier. On se demandait ce que les Français et les Françaises avaient fait pendant leur longue journée de confinement. Ah, ça devait y aller, hein. Pas compliqué, pas compliqué. Bah, ça n'a pas du tout marché parce qu'on a appris aujourd'hui que le nombre de bébés a baissé de 13%, le nombre de naissances a baissé de 13% au mois de janvier comparé à janvier 2020. C'est du jamais vu depuis 45 ans. Visiblement, au printemps dernier, on a surtout regardé la télé. Bonsoir Aude Vernuccio.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Merci à vous tous d'écouter la radio. Voici avec vous les autres grands titres de l'actualité de ce jeudi 25 février 2021.
Évidemment, la pandémie de Covid-19, nouvelle conférence de presse du Premier ministre et du ministre de la Santé. 11 départements au rouge. Après avoir reçu des menaces de mort, le maire d'Hebron, agressé hier soir par une dizaine d'individus. 32 réacteurs nucléaires français prolongés de 10 ans. L'autorité de sûreté donne son feu vert. Et puis en rugby, 16e cas de Covid au sein du 15 de France. Le match contre l'Écosse est reporté.
Ah bah cette fois c'est clair, ça jouera pas dimanche. À 18h15, un témoignage très fort. On reste dans le monde du rugby. C'est celui de Jean Dominici. C'est le père de Christophe Dominici, le rugbyman parti il y a 3 mois maintenant. Il a écrit une lettre à son fils. Ce soir, il a accepté de venir nous parler du champion disparu. La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Demain, ça va changer un peu, en tout cas pour certains.
Exactement, entre le sud-ouest, le centre et la Lorraine, là le ciel sera bien nuageux, quelques faibles pluies entre le centre et le nord-est le matin, des pluies plus régulières sur les régions centrales et l'Île-de-France l'après-midi, en revanche de part et d'autre sur le nord-ouest et le sud-est, là il fera beau, tout ça sous des températures qui vont bien baisser mais qui seront toujours au-dessus des normales, de 2 à 10 le matin, et les maximales seront comprises entre 10 et 15 degrés au nord jusqu'à 19 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Après l'annonce du reconfinement partiel à Nice et à Dunkerque, 11 départements dans le rouge, dans une situation sanitaire préoccupante. Le taux d'incidence y est supérieur au seuil d'alerte. Conférence de presse en cours du Premier ministre Jean Castex et du ministre de la Santé Olivier Véran. Vincent Derosier, bonsoir.
Bonsoir.
Faut-il s'attendre ce soir à de nouvelles restrictions ?
Non, pas tout de suite. L'esprit de la conférence, c'est dernier avertissement avant sanction. Pas de nouveau Nice ou Dunkerque donc ce soir, dixit Matignon. Toute nouvelle restriction se fera de toute manière après concertation avec les élus locaux. En revanche, Jean Castex va bien donner la liste des départements en sursis, ceux où le taux d'incidence est dans la zone rouge. Jean Castex et Olivier Véran vont aussi mettre la pression, une pression très forte sur les Français. C'est votre comportement qui permettra d'éviter un troisième confinement. Mais l'annonce de ce soir, la nouveauté qu'il faut attendre est médicale. Le Premier ministre dira tout à l'heure que les traitements contre le Covid vont débuter dans quelques jours en France. On ne parle pas de vaccins, mais de médicaments et notamment des anticorps monoclonaux, technique qui aide le système immunitaire à neutraliser le virus. Ce traitement avait déjà été utilisé, vous vous en souvenez peut-être, sur Donald Trump lorsqu'il avait contracté la maladie, et le gouvernement dira dans quelques minutes qu'il investit massivement dans cette voie.
Vincent Derosier du service politique d'RTL, Jean Castex estime ce soir que la situation sanitaire s'est dégradée. Et les chiffres de contamination sont au plus haut. 31 500 nouveaux cas de Covid hier d'après Santé publique France, au même niveau qu'à la mi-novembre.
Voilà, on aura les chiffres du jour dans les minutes qui viennent. On parlera aussi de cette conférence de presse avec le professeur Bertrand Guidé. C'est le chef du service de réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il sera avec nous sur les coups de 18h40. Depuis ce matin, Aude, les médecins peuvent vacciner dans leur cabinet contre le coronavirus avec les doses de vaccin AstraZeneca.
Vaccination réservée aux Français âgés de 50 à 75 ans et atteints de comorbidité. Virginie Garin, bonsoir.
Bonsoir Aude, bonsoir à tous.
Pour effectuer ce geste, Virginie, est-ce que les médecins et les pharmaciens qui leur fournissent les doses sont rémunérés ?
Oui, le médecin est payé le prix d'une consultation, c'est-à-dire 25 euros en tiers payant, donc financé par l'assurance maladie et les mutuelles. Le médecin reçoit aussi 5,40 euros par injection pour le temps passé à déclarer cette vaccination sur le site amélie.fr. Le pharmacien, lui aussi, est payé. Quand il distribue un flacon à un médecin, donc 10 doses, il reçoit de l'assurance maladie 3,45 euros et 10 centimes de plus chaque fois qu'il vend un flacon supplémentaire au même médecin. Alors les pharmaciens qui sont en revanche un peu mieux rémunérés lorsqu'ils font des tests antigéniques, 32 euros par test, mais ça couvre à peine les frais engendrés, disent-ils, le coût du test, du personnel pour les faire, du matériel de protection et du temps passé pour enregistrer les résultats sur le site de l'assurance maladie.
Explication signée Virginie Garin pour RTL.
Alors face à la menace des variants, le sud-africain, le brésilien, le britannique, l'Europe tente de parler d'une même voix. Les 27 sont en ce moment même réunis en sommet virtuel. Bruxelles promet d'accélérer l'approbation des vaccins, la fabrication et les livraisons. La question des frontières est aussi sur la table avec des consignes qui sont pour l'instant en ordre dispersé selon les États.
La Belgique a par exemple interdit les voyages non essentiels, tandis que la France exigera dès lundi un test PCR négatif de moins de 72 heures entre la Moselle et l'Allemagne. Les travailleurs frontaliers eux ne sont pas concernés. Une troisième rixe en quatre jours aujourd'hui dans le département de l'Essonne. Cette fois, ça s'est passé à Évry. Affrontement d'une trentaine de jeunes. Une personne a été blessée à l'arme blanche, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Trois personnes interpellées. Tandis qu'en Seine-et-Marne, à Savigny-le-Temple, une rixe a été évitée de justesse. Les policiers sont intervenus très rapidement. Il avait été menacé de mort et de décapitation plusieurs fois à l'automne. Le maire de Bron, près de la ville de Lyon, a été agressé hier soir. Jérémy Bréau a essuyé des jets de projectiles, des insultes. Sa voiture a été caillassée par une dizaine d'individus, Frédéric Perruche.
Oui, c'est d'abord la voiture de la mairie qui a été ciblée, saccagée, vitres, pare-brise, carrosserie et rétroviseur défoncés, avant qu'un groupe de jeunes ne s'en prenne directement à Jérémy Bréau et son équipe.
Moi-même, j'ai vu mes propres yeux, effectivement, des cailloux, des pierres, et puis j'ai vu, c'est la première fois que ça m'arrive, une canette grand format, je l'ai vu arriver, j'ai même suivi et j'ai vu l'impact contre le mur qui était derrière. Oui, c'était honnêtement, c'est anxiogène, oui.
Visiblement, le maire de Bron dérange dans certains quartiers avec sa politique de fermeté, plus de caméras de vidéosurveillance, de policiers municipaux désormais armés, les habitants en sont persuadés.
Sa personnalité et les mots, la façon de faire, la façon d'être fait qu'il dérange. Dans tous les trafics qu'il peut y avoir sur Bron, eh ben, il dérange. Pour moi, c'est pour ça qu'on l'agresse.
Vous le soutenez du coup ?
Ah, moi, je le soutiens à 200%. Et qu'il continue comme ça, ça va faire que du bien à Bron.
Le maire a porté plainte ce matin et reçu le soutien de nombre de ses collègues dans la région et au-delà.
Frédéric Perruche à Bron pour RTL. La lutte anti-drogue, c'est l'objet du déplacement du ministre de l'Intérieur à Marseille cet après-midi. Gérald Darmanin a réagi après l'agression du maire de Bron.
Je vais joindre Monsieur le maire de Bron pour lui apporter le soutien, évidemment, du ministère de l'Intérieur. Il est déjà en partie, avec d'autres maires d'ailleurs, que je voudrais, de la région lyonnaise et ailleurs, protéger. Et notamment, ces insultes, ces agressions, ces caillassages sont totalement inacceptables en République. Et les consignes sont très clairement données au préfet pour aider au maximum à retrouver les auteurs et à les confondre devant la justice.
Gérald Darmanin au micro d'Étienne Baudu pour RTL, le ministre qui annonce de nouveaux renforts, 300 policiers supplémentaires à Marseille sur 3 ans pour lutter contre le trafic de stupéfiants.
Les plus vieux réacteurs nucléaires de France prolongés de 10 ans, 32 réacteurs au total, conçus pour durer environ 40 ans à l'origine. L'autorité de sûreté nucléaire donne son feu vert, mais il y a quelques conditions à respecter pour qu'ils fonctionnent en toute sécurité, Sophie Jousselin.
Oui, l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas apposé sa signature en bas d'une feuille blanche. L'exploitation 10 années supplémentaires des plus vieux réacteurs français impose au préalable à EDF un contrôle approfondi de ces installations. L'électricien doit anticiper le vieillissement des équipements, prévoir dans quel état ils seront dans 10 ans et éventuellement les changer. L'exploitant va devoir également faire de gros travaux dans ses installations afin d'en augmenter le niveau de sûreté pour se rapprocher de celui des réacteurs de dernière génération. Tout devra être terminé en 2031 au plus tard. Julien Collet, le directeur adjoint de l'autorité de sûreté nucléaire.
Nous avons demandé à EDF de procéder à un certain nombre de renforcements, également d'installer des systèmes de refroidissement supplémentaires qui permettront, en cas d'accident avec fusion du cœur, de contenir le cœur fendu à l'intérieur du bâtiment réacteur. Un autre exemple, c'est le renforcement des installations face aux agressions, qu'elles soient externes, comme le séisme ou une inondation, ou des agressions internes telles que l'incendie ou l'explosion.
Seuls deux éléments ne peuvent pas être changés dans un réacteur, l'enceinte de confinement et la cuve, cuve dont on estime aujourd'hui qu'elle est faite pour durer 60 ans.
Merci à vous Sophie Jousselin.
Un petit point sur les déclarations, les premières déclarations de Jean Castex qui tient sa conférence de presse en direct pour le moment. La situation sanitaire s'est dégradée en France, il faut tout faire pour retarder le confinement, dit le Premier ministre. Et il explique aussi que notre économie pour l'instant ne s'est pas effondrée. On suit tout ça évidemment en fil rouge dans RTL Soir. Petite pause donc. Et dans un instant, la chute historique des naissances au mois de janvier. Le Covid est là encore passé par là.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h et presque 11 minutes, la suite du journal d'Aude Vernuccio. Alors, Aude, on se demandait si le confinement avait donné l'envie aux couples de faire des bébés. Après 2 mois cloîtrés à la maison au printemps dernier, c'est tout l'inverse qui s'est produit, en tout cas si l'on en croit l'INSEE.
La chute historique du nombre de naissances au mois de janvier 2021, moins 13%. Marie Guerrier, bonsoir.
Bonsoir.
C'est du jamais vu depuis la fin du baby-boom.
Oui, il y a eu en moyenne 1740 naissances par jour en janvier, alors que c'était plus de 2000 l'année dernière. Dans le passé, on a déjà connu des chutes notables de la natalité au moment des grosses récessions économiques. Mais il faut remonter à 1975, la crise pétrolière et la fin du baby-boom pour retrouver une dégringolade comme celle observée aujourd'hui. En décembre, 9 mois après le début du confinement de mars, le nombre de nouveau-nés était déjà en recul de 7% et la tendance donc s'aggrave. Crise sanitaire, forte incertitude, les couples confinés à la maison avaient d'autres choses en tête que de faire des bébés. L'INSEE estime aussi que les questions qui se posaient à ce moment-là sur la transmission possible du virus de la mère à l'enfant a pu jouer. Et puis il faut ajouter que pendant le confinement, les centres de procréation assistée étaient fermés. Cette chute historique s'inscrit dans une tendance déjà à la baisse depuis plusieurs années en France, avec en 2020 la plus faible natalité enregistrée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Merci à vous Marie Guerrier. À l'instant, Jean Castex qui nous dit que ce sont désormais 20 départements qui sont en surveillance renforcée. 20 départements dans le pays.
On parlait de 10 départements, 11 départements au départ. Agathe Landais, quelles sont les annonces ce soir?
Justement, il y a 20 départements qui sont placés en alerte renforcée. Ces départements sont toute l'Île-de-France, quasiment toute les Hauts-de-France et la région PACA, et puis d'autres départements comme la Drôme, l'Eure-et-Loire, la Meurthe-et-Moselle ou encore la Moselle. En fait, le problème, c'est que dans ces départements, le taux d'incidence qui indique la circulation du virus pour 100 000 habitants est au-dessus du seuil d'alerte. Là, on a également une place très importante des variants qui représentent plus de 50% des cas positifs détectés. Et on a aussi une saturation qui est assez importante dans les hôpitaux. C'est pour ça que ces 20 départements vont être surveillés de très près. Le Premier ministre a expliqué qu'il y aura un point la semaine prochaine pour ces 20 départements pour savoir s'il faudra ou non renforcer les mesures.
Merci à vous Agathe Landais. On apprend ce chiffre inquiétant. Le variant anglais représente désormais à peu près de la moitié des cas positifs de coronavirus, selon Jean Castex.
On va parler voiture à présent avec un changement de logo chez Peugeot. Le lion se relift, c'est une première depuis 11 ans.
Un changement très vintage, Thomas. Le constructeur a préféré la tête du lion pour sa nouvelle image, un clin d'œil assumé aux années 60. Et ce n'est pas un hasard, Christophe Bourroux, tous les constructeurs surfent sur la vague de ce qu'on appelle le néo-rétro.
Retour vers le futur pour Renault qui ressort la bande-son d'une pub des années 80, celle des voitures à vivre. Renault qui s'apprête aussi à relancer la R5, alors ce soudain coup d'œil dans le rétro est loin d'être un hasard, selon Flavien Nevy à la tête de l'Observatoire Automobile 7LM.
Ce sont des modèles qui sont déjà connus en fait, la notoriété est déjà faite, donc c'est du temps de gagner pour les constructeurs et de l'argent de gagner.
Ce sont ainsi des millions d'euros économisés, car remettre au goût du jour une voiture ancienne, c'est un effet waouh garanti. Le retour de la Mini, puis celui de la Fiat 500 a fait exploser les ventes, l'effet Madeleine de Proust.
On sait qu'aujourd'hui, un acheteur de véhicules neufs en France, il a environ 55-56 ans, qui connaît ces modèles. Le néo-rétro fonctionne bien avec cette clientèle-là.
Mais à condition de bien coller à l'air du temps, en sortant une Méhari électrique il y a 6 ans, Citroën n'en avait vendu qu'un petit millier. Aujourd'hui, les modèles verts décollent et les anciennes mettent les doigts dans la prise, comme la Ford Mustang ou Volkswagen qui s'apprête à lancer dès l'an prochain la version 100% électrique du mythique combi.
Christophe Bourroux pour RTL. En rugby, après de nombreux rebondissements et d'espoir, le match France-Écosse n'aura finalement pas lieu. Il a été reporté à une date ultérieure pour cause de Covid-19. Un nouveau cas positif détecté ce matin au sein du 15 de France. C'est le 16e, Jean-Michel Rascol.
Oui, un de plus, un de trop. Si le comité des Six Nations avait donné son accord hier, il conditionnait sa décision au fait qu'aucun nouveau joueur français ne soit testé positif. Ce n'est donc pas le cas. Il y a eu une faille dans le protocole sanitaire mis en place depuis le stage de Nice et même depuis le retour des Bleus à Marcoussis. Fabien Galthié se serait permis certaines libertés dans la semaine précédant le déplacement à Dublin. Des partenaires d'entraînement testés négatifs étaient peut-être en période d'incubation alors qu'ils étaient au contact des joueurs du 15 de France. Des hypothèses qu'il convient d'approfondir pour répondre à l'enquête demandée à la Fédération par Roxana Maracineanu. Aucune date n'a été avancée pour disputer ce France-Écosse. Le reculer d'une semaine au dimanche 7 mars semblait la solution idéale, mais les Écossais s'y sont opposés car une convention les oblige à remettre leurs joueurs à la disposition des clubs. Le comité des Six Nations dirige dirigée par un Français, Benjamin Morel, qui a longtemps présidé la NBA en Europe, s'est appliquée à préserver l'équité sportive. Prochain rendez-vous en principe pour les Bleus le 13 mars à Twickenham.
Jean-Michel Rascol du service des sports. Vous nous disiez, quand on parlait voiture, là, la tête c'est Jaguar.
Moi, la tête c'est Jaguar.
C'est un lion Jaguar? Bah non, c'est un Jaguar.
Mais c'est une tête.
Merci beaucoup. On a qu'il y a du foot aussi ce soir. Lille qui affronte l'Ajax d'Amsterdam dans le cadre de la Ligue Europe. Coup d'envoi à 18h55. Mais ça s'était pas très bien passé à l'aller, donc ça va être très compliqué. La bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
L'incroyable chaîne de solidarité à Auxerre, un groupe Facebook a permis de sortir un SDF de la rue. On l'apprend dans le quotidien Lyon Républicaine. Un jeune de 26 ans en galère a dû se réfugier un soir aux urgences. C'est une infirmière sur place qui a prévenu le collectif. Le lendemain, un soignant propose au jeune de lui payer 6 mois de loyer. Il a même négocié un appartement meublé avec un propriétaire. Et ce n'est pas tout. Une semaine plus tard, il a décroché un emploi comme veilleur de nuit jusqu'à la fin mars. Je vous laisse regarder cette page Facebook, elle s'appelle Identifier les SDF pour leur venir en aide à Auxerre et aux alentours, en tout cas chapeau.
Merci beaucoup à vous, Aude. On vous retrouvera tout à l'heure. Dans un instant, et on revient sur les premières annonces de Jean Castex avec le professeur Bertrand Guidet. Il est l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Otto.
Il est 18h19 et avant de retrouver le professeur Guidet, je me tourne vers vous, Agathe Landais. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui s'est dit dans les 20 premières minutes de la conférence de presse de Jean Castex et du ministre de la Santé, s'il vous plaît?
Alors, le Premier ministre a d'abord dressé un peu le portrait de la situation, expliquant que depuis plusieurs jours, la situation se dégrade, les contaminations repartent à la hausse. L'idée est toujours de tenir, d'éviter à tout prix un nouveau confinement. Le problème, c'est que la tension hospitalière est toujours très forte, que le variant prend de plus en plus de place, le variant anglais. On est désormais à peu près la moitié des cas positifs par jour qui sont des variants anglais. Cette situation donc inquiète les autorités, en particulier dans 20 départements de la France. En gros, c'est l'Île-de-France, tous les départements d'Île-de-France, les Hauts-de-France, PACA et d'autres départements, notamment dans l'Est. Ces 20 départements ont été ciblés, identifiés. On va surveiller toutes les courbes de très très près pendant une semaine. Et si la situation se dégrade dans ces 20 départements, de nouvelles mesures pourront être mises en place à partir du 6 mars.
6 mars, donc samedi de la semaine prochaine, pour Exactement. Le week-end de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Agathe. Bonsoir, professeur Bertrand Guidet.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes le chef du service de réanimation de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Agathe nous le disait, 20 départements, situation préoccupante, une situation générale qui se dégrade. Pas de nouvelles mesures attendues au plus tôt avant le 6 mars. Est-ce que c'est bien raisonnable d'attendre comme ça? Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous dites non, on peut encore se le permettre?
On est dans une situation tendue, avec clairement une augmentation du nombre d'admissions à l'hôpital et singulièrement en réanimation. C'est intéressant de regarder le rapport entre le nombre de malades admis dans un service classique et un service de réanimation. Mmh. Au printemps, on était dans un rapport de 6 à 1. Là, on est dans un rapport de 3 à 1. Donc, on a relativement plus de malades en réanimation, ce qui explique qu'on a une tension sur les lits de réanimation qui est proche de 70%, en tout cas en Île-de-France, qui est à 70%. C'est-à-dire que 70% des lits de réanimation sont occupés par des malades Covid. Ça veut donc dire que la marge de sécurité et notre capacité à répondre à une augmentation du nombre de malades est très faible. Mmh.
Mais est-ce que ça veut donc dire qu'il faudrait faire et prendre, selon vous, d'un point de vue médical, des mesures peut-être plus fermes, plus strictes? Est-ce que vous auriez souhaité un confinement, au moins un confinement du week-end, comme dans les Alpes-Maritimes ou à Dunkerque?
C'est un équilibre compliqué à trouver entre une aspiration des Français à essayer de vivre le plus normalement possible, mmh, et puis la préservation de l'offre de soins hospitalière. Clairement, il y a une lassitude de tout le monde, il y a une lassitude du Français, il y a une lassitude des soignants, et donc il y a un équilibre à trouver. Donc là, effectivement, la décision qui est prise, elle est un peu limite, dans la mesure où, encore une fois, on a peu de sécurité sur nos capacités à admettre encore plus de malades.
Vous avez peur que ça craque, pour dire les choses?
Voilà, le problème, c'est que on est à un an de cette épidémie, le personnel est fatigué, il y a une lassitude générale, Et donc, je dirais que moi, en tant que citoyen, je suis plutôt favorable à ce qu'il n'y ait pas de reconfinement. Mais en tant que professionnel de santé, je sens qu'on est à la limite de la rupture.
La limite de la rupture. Les derniers chiffres des contaminations sont intéressants. Regardez, parce que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, on était grosso modo autour de 20, 22 000, parfois 24 000 cas par jour. Hier, on est passé à plus de 31 000 cas. Est-ce qu'on peut toujours parler de plateau, professeur Guidet, ou est-ce que c'est le début de la troisième vague, là ?
Moi, j'aime bien l'expression de marée montante. C'est-à-dire, c'est pas une vague, c'est une marée montante. C'est-à-dire qu'effectivement, ça continue à monter et c'est cumulatif. C'est-à-dire que ce qu'il faut regarder, c'est les flux entrants et les flux sortants. Clairement, les flux entrants sont supérieurs aux flux sortants. C'est-à-dire qu'on a à gérer plus de malades à l'hôpital. Donc, oui, la réponse est ça monte. Ça ne monte pas comme une vague, comme ça a pu être le cas au mois de février ou mars, février dans le Grand Est et mars en Île-de-France, mais ça monte progressivement.
La différence, c'est que la vague, on la prend peut-être dans la figure, mais la marée montante, c'est inexorable.
Exactement. Exactement. Et donc,
C'est pas plus rassurant.
La question, c'est à partir de quand, on va dire... il faut faire quelque chose. Et ce qui est compliqué dans cette affaire de virus, c'est qu'il y a un décalage entre les contaminations, ce dont vous parliez, plus de 30 000 contaminations, qui se traduit quelques jours après par plus d'hospitalisations et encore quelques jours après par plus de réanimations et potentiellement plus de morts. Et donc, oui, là, le chiffre que l'on a d'augmentation des contaminations, d'augmentation du R0, c'est-à-dire le nombre de... sont des éléments un peu inquiétants quand même, qui laissent à penser qu'effectivement, le virus circule beaucoup et que l'hôpital va être très sollicité dans les jours à venir.
Je vous écoute depuis quelques minutes et j'ai l'impression d'un décalage entre ce que vous nous dites, ce que vous nous racontez, ce que vous vivez sur le terrain et ce que sont en train de dire les deux ministres, le Premier ministre et le ministre de la Santé. On a l'impression que vous n'êtes pas face à la même réalité là.
Non, je pense qu'ils essayent de comme l'a dit Jean Castex, de préserver l'économie, l'éducation, l'état psychique. Voilà.
Est-ce qu'ils se trompent ?
C'est un équilibre compliqué. Moi, ce que je regrette, c'est que effectivement, on n'est pas bien anticipé la préparation de l'hôpital à ces situations de crise sanitaire. Ça, je le dis depuis des années. Et donc, on ne va pas réparer l'hôpital en quelques mois. Donc ça, c'est un vrai problème. Pour les secteurs de réanimation, il n'y a pas eu vraiment de signaux sur « Ok, on a bien compris qu'il fallait qu'on augmente les capacités de réanimation en France ». Et donc, c'est en ce sens-là où je suis un peu agacé par ce discours politique qui... quelque part, entend la demande des Français d'essayer de vivre le plus normalement possible et qui met réellement en tension l'hôpital avec du personnel qui commence à être franchement fatigué.
À partir de lundi, il y a des enfants qui vont retourner, qui doivent retourner à l'école, c'est la rentrée scolaire. Est-ce que c'est souhaitable de les faire retourner à l'école là, tout de suite, dans ce contexte, selon vous ?
Ben, il va falloir les tester avec ces tests salivaires qui doivent être généralisés.
C'est-à-dire que vous pensez qu'il faudrait tous les tester avant le début des cours ?
Je pense que ce serait bien de le faire le plus possible. Deuxièmement,
Vous ne dites pas que c'est une folie de reprendre les cours lundi.
Ben c'est un pari encore. Encore une fois, c'est un pari. Alors après, les vacances de février ont été étalées en trois zones. Donc effectivement, on a un peu de recul sur la première zone qui a pris des vacances. L'alternative, c'est un reconfinement dur, comme ont pu le faire les Allemands, avec les écoles fermées depuis plus de deux mois en Allemagne, avec l'objectif d'avoir une élimination de ce virus. C'est une gageure.
C'est la fameuse stratégie zéro Covid, c'est ça ?
La stratégie...
On écrase le Covid ?
Absolument. Mais c'est pas vrai. Enfin, c'est possible en Nouvelle-Zélande, parce que c'est une île, parce qu'il y a peu d'habitants. Etc. C'est pas possible en Allemagne. On a vu en Allemagne, ils ont des mesures très dures depuis deux mois, avec les écoles fermées. Et le virus circule encore. Et donc l'idée qu'un reconfinement dur permettrait d'éliminer ce virus, non, ça c'est... Donc on a à gérer une période intermédiaire entre le moment où le maximum de Français seront vaccinés et où il y a des aspirations à pouvoir vivre, pouvoir sortir, etc. Et puis la pression sur les hôpitaux. C'est vrai que la pression sur les hôpitaux, là, elle commence à être... vraiment, vraiment dur.
Professeur Guidet, il n'est pas question de mettre en cause la bonne volonté de qui que ce soit, mais on a l'impression que les politiques sont paumés, que les médecins sont paumés, que les Français sont paumés. Est-ce qu'on en est là ?
Non, non, je pense que c'est une équation multiparamétrique. Et donc, ça dépend comment on analyse la situation, quel filtre on utilise. Si on utilise un filtre sanitaire et purement sanitaire, ça a été un peu la position du Conseil scientifique il y a quelques mois.
Conseil scientifique, pardon, mais dont on a appris qu'il avait recommandé un confinement ferme pour le début février.
Voilà. Oui,
c'était... Il n'a pas été écouté.
Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que si on prend un filtre sanitaire, oui. C'est une position de reconfinement. Quand on commence à intégrer d'autres variables dans le modèle sociologique, psychologique, éducatif, c'est le papier de Jean-François Delfrécy dans le Lancet, hein, qui finalement modifie un peu sa position parce qu'il intègre d'autres paramètres. C'est que c'est compliqué. Oui. C'est qu'effectivement, on doit... parallèlement intégrer des informations du domaine du sanitaire et des informations du domaine de la société civile. Mmh. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, il faut effectivement proposer des solutions du coût humain, avec du reconfinement de week-end, avec...
Ce reconfinement de week-end dans les 20 départements qui sont cités ce soir par le Premier ministre, il n'aurait pas fallu le commencer ce week-end ? Vous n'auriez pas préféré ça, vous, au moins ?
Non, mais c'est vrai que ça commence à franchement bouger vers le haut. Hein. Donc, bon, là, il se donne une semaine de plus, parce qu'effectivement, c'est le week-end du 6 mars.
Vous auriez préféré qu'on ne la prenne pas, cette semaine ?
Moi, je pense qu'on commence à avoir des signaux convergents sur sa monte. Et donc, effectivement, pour répondre à votre question... Peut-être qu'il aurait mieux fallu le prendre dès ce week-end.
Dernière question, professeur Guidet. Le gouvernement veut pousser les traitements et a parlé notamment ce soir des anticorps monoclonaux. C'est quoi ? Ça fonctionne comment ? Et c'est le traitement miracle ? C'est quoi ça ?
Alors, les anticorps monoclonaux, c'est ce que l'on produit naturellement avec son système immunitaire.
Nos défenses.
C'est des cellules qui s'appellent les lymphocytes qui produisent des anticorps et ces anticorps vont aller neutraliser le virus. Donc ces traitements sont intéressants, mais à une phase précoce de la maladie. À partir du moment où le virus est diffusé dans l'organisme, multiplié dans l'organisme, ça ne sert plus à rien. Un malade en réanimation, ce n'est pas du tout une bonne indication de ces anticorps. Donc effectivement, c'est une piste qui est intéressante, mais à une phase précoce, de manière à éviter que les virus ne puissent se diffuser dans l'organisme, se multiplier dans l'organisme.
Merci infiniment, professeur Bertrand Guidet, d'être venu nous voir dans RTL Soir. Je rappelle que vous êtes le chef du service de réanimation de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Merci à vous. Dans un instant, après le rappel des titres, ce sera Philippe Cavrivière, l'œil de Philippe.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Aude Vernuccio pour le rappel.
La situation sanitaire se dégrade selon le Premier ministre. Nouvelle conférence de presse aux côtés du ministre de la Santé. Le gouvernement appelle à tout faire pour retarder un confinement. Ce ne sont pas 11 mais 20 départements qui sont en surveillance renforcée désormais. Le variant britannique jugé plus contagieux représente la moitié des cas positifs en France. Jean Castex prévient si la situation empire, de nouvelles mesures seront prises dès le 6 mars. Sur le front de la vaccination, une promesse. D'ici mi-avril, tous les plus de 50 ans se seront vus proposer une première injection, selon Olivier Véran. Et puis cette bonne nouvelle, une thérapie à base d'anticorps monoclonaux pour limiter les formes graves chez les patients à risque. Et puis Gérard Depardieu nie en bloc ce soir les accusations de viol qui pèsent contre lui. L'acteur a été mis en examen. Les faits se seraient déroulés en 2018. « Je n'ai rien à craindre », déclare-t-il dans un entretien au journal italien La Repubblica.
Merci Aude. L'œil de Philippe Cavrivière, bonsoir, mardi. Non, on n'est pas mardi, on est jeudi. Non.
C'est ça, c'est une vitesse.
Les semaines sont trop longues avec vous. Philippe, vous allez nous parler évidemment du sujet d'actu brûlant.
Thomas, vous l'avez tous deviné. En plus, me connaissant, c'est le sujet que vous attendez venant de moi. Je vais bien sûr vous parler des victoires de la musique classique.
Ah.
Les Energy, les Energy Music Awards de la flûte à bec. Évidemment, dans la catégorie révélation lyrique de l'année, on le savait, c'était
votre téléphone qui sonne
d'avance. Hein, vous avez tous le nom de la gagnante lyrique.
Oui.
Voilà.
Comment ça s'appelle
Marie
déjà
Morgoni.
Oui, c'est ça.
Voilà. Présenté par Stéphane Bern. Oui. La soprano s'est imposée, ça passionne tout le monde. Et dans la catégorie, bien sûr, soliste instrumentale, vous l'avez deviné. Il nous a éblouis avec son interprétation du concerto 3e mouvement de Ravel. Il s'agit du pianiste qui a gagné hier soir.
Alexandre Tarot.
Oh oui, bravo! Christine, salopard. Oh, on n'y croit pas. Quand je parle musique classique, je sens bien qu'on n'y croit pas. Je ne suis pas crédible. Ouais. Je suis comme Jean Castex quand il dit que le gouvernement a une stratégie vaccinale. Ah. Personne n'y croit.
Bon, alors parlez-nous pour le coup de l'actu. On vous sait courageux, Philippe. On sait que vous osez aborder tous les sujets.
C'est bien de le rappeler, Thomas. Mais comme certaines de mes chroniques suscitent de vives réactions, j'ai décidé de commencer dorénavant par un point actu non segmentant.
Ah.
Attention, vous êtes prêts ?
Pas sûr.
Oh ben dis donc, on a beau temps. Voilà, normalement, ça ne devrait pas entraîner trop de remous sur Twitter. J'espère que j'ai choqué personne. Ça va, Peggy ? C'était pas trop violent comme prise de position. Voilà. Je précise aux climato-sceptiques que c'était de l'humour, bien sûr. Hein. On peut démarrer la chronique.
Maintenant. Bon, alors on va enfin, si vous le voulez bien, parler du vrai sujet. Les déclarations de Jean Castex depuis 18h suite aux chiffres plutôt inquiétants du Covid-19.
Bon, inquiétant. On est à quoi, 15 000 cas ?
Non, 30 000.
Oh, dis donc, hey, tu nous vois venir, hein ? C'est 20 000, pas plus.
Non, 30 000.
Allez. 25 000 avec le tam-tam.
Non, 30 000.
Bon, file-lui ces 30 000, c'est des cons au gouvernement. Bon, on a entendu Monsieur Mauvaise Nouvelle à 18h. On le sait désormais, Castex du matin, chagrin. Castex du soir, désespoir. C'est donc la cata annoncée qui arrive. Bon, on se pose tous maintenant la question.
Comment ? Je dis bien, comment a plutôt... en arriver là.
Ben oui.
Et comment a-t-on en arriver là, ben Philippe? Oui. Comment? Ben,
tout simplement parce que le Covid repart à la hausse alors que la vidéo de McFly et Carlito a pourtant atteint les 10 millions de vues.
Ah ben oui.
C'est à n'y rien comprendre, Thomas.
Ben oui. C'est troublant.
Les chiffres ne sont pas bons en Moselle, à Nice, à Dunkerque. Alors vous avez remarqué que les mauvais élèves, c'est toujours le Nord et le Sud. Les ch'tis et les Marseillais. Vous avez fait la démarche intellectuelle tout seul. Le virus a les mêmes goûts que W9 pour ses émissions de télé-réalité. W9, c'est toujours le groupe M6 et RTL.
Oui, contrairement à vous, bientôt.
Eh bien, c'est super comme émission. On n'a rien fait de mieux depuis le Grand Échiquier.
Allez, la situation est grave, Philippe, mais bon, on ne peut pas dire que le gouvernement fait rien quand même. Olivier Véran, il est allé à Nice et puis il est allé à Dunkerque.
Alors c'est vrai, Thomas, Olivier Véran s'est rendu au centre hospitalier de Dunkerque avant de se remettre torse nu pour l'inauguration d'un fitness park. En centre-ville, car il y a un centre-ville à Dunkerque, on l'a appris en même temps. Alors, comme pour Nice, le maire de Dunkerque a demandé aux touristes de ne pas... Ah ben non, je suis con, c'est Dunkerque. Non, pardon. Oh. Pas besoin. Vous savez que le directeur de l'office du tourisme de Dunkerque s'est pendu en 84 et il n'a toujours pas été remplacé. Et tout le monde s'en fout. Voilà, attention. Je ne dis pas du mal que de la province. Paris, c'est pas mieux. Hein. Vous avez vu les parcs et les canals Saint-Martin le week-end dernier.
Ouais.
Tout le monde était en train de pique-niquer, de boire du rosé. Le nouveau masque FFP2, c'est le gobelet en plastique. Alors, j'ai vu avec mon confrère que vous receviez Bertrand Guidet. C'est pas homologué. Hein.
Non, c'est sûr.
Ça passe sur les côtés quand on boit.
Résultat de tout ça, c'est qu'on n'a plus le droit de boire de l'alcool dans certaines rues de Paris, Philippe.
Oui, Thomas, visiblement, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir soif. Hommage à Jean-Jacques Goldman qui a des fins de mois bien difficile. Moi, je suis contre cette mesure d'interdire de l'alcool parce que c'est de la discrimination anti-moche.
Et pourquoi ?
Car soyons honnêtes, l'alcool rend beau. C'est l'équivalent d'un filtre Instagram en 3D. Sans alcool, la fête est plus folle, mais la voisine est plus moche. On est une famille, on se dit tout. Hein ? Mesdames, c'est pareil pour vous, ça marche dans les deux sens. Mais si, vous aussi, avec l'alcool vous aide à faire des concessions. Vous notez plus large, c'est vrai. Sans alcool, un 12 sur 20, bah c'est un 12 sur 20.
Ouais.
Après 3 mojitos, il peut devenir un 16. Voilà. Et... c'est un 11 qui vous le dit.
Ah oui.
Oui, je me suis mis la moyenne et je vous emmerde.
Ouais, c'est bien noté quand même. Hein. Bon, sans transition aucune, vous nous parliez d'alcool, vous allez nous parler de Gérard Depardieu. Il a été mis en examen pour une agression sexuelle sur une actrice en 2018, agression présumée.
Ah bon ? Sur une jeune femme ?
Oui.
Ah, parce que moi j'avais sur une poularde au mori qu'il avait farci lui-même.
Non, Philippe.
Ou qu'il s'était farci. Bah écoutez, il faudra voir le ralenti. On va demander la VAR. Le problème, bien sûr, de toutes ces plaintes, c'est qu'elles sont souvent classées sans slip.
Non.
Il n'y a pas de bonne chronique sans le mot slip. En tout cas, ça n'arrête pas les affaires dans le cinéma.
Il n'y a pas de bonne chronique sans le mot slip. C'est la phrase de la semaine.
En tout cas, ça n'arrête pas les affaires dans le cinéma français. Après l'affaire Besson, le grand bleu, l'affaire Depardieu, le gros rouge. Interrogé, Gérard Depardieu n'a pas eu des mots très tendres envers la jeune actrice.
C'est une pute. N'importe quel homme lui propose $50, elle monte.
Oui, Gérard Depardieu n'a pas cité que du Rostand. Pardon, Piggy, il a cité du Rouston aussi. Bon, eh bien, on se quitte sur les Roustons de Gérard Depardieu. Le bon week-end confiné à tous. Et quitte à rechoquer, je m'en fous. Je le dis, il risque de faire beau. Oh. Ça choque, oui.
Philippe, on va préciser quand même que Gérard Depardieu a dit « J'ai innocent, je suis innocent, je n'ai rien à craindre. »
La plarde.
Ah, voilà, absolument. On vous retrouvera samedi pour être spectateur de France 2, chez Ruquier.
Oui, vers minuit. Quoi. Comment
s'appelle l'émission ?
On est en direct.
Ça va, j'essaie de vous coller.
Mais je sais où je bosse quand même.
On vous met 11,5, ça passe. Il n'y a pas que le physique dans la vie.
Ben, merci, avec le masque. Philippe. 11 merci avec beaucoup. Le masque. Sans le masque, je passe en dessous, bien sûr.
Tu as retiré le masque pour voir ?
Oh non, non, c'est vrai. Ah !
8, 4, 2. Allez, merci Philippe. Le 24 novembre dernier, Christophe Dominici disparaissait tragiquement à l'âge de 48 ans. Ce soir, son père, Jean Dominici, a choisi de prendre la parole pour la première fois depuis ce drame. Et il est l'invité d'RTL Soir tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto, RTL Soir.
Le 24 novembre dernier, il y a 3 mois, Christophe Dominici disparaissait. Aujourd'hui, l'autobiographie qu'avait écrite le rugbyman ressort aux éditions du Cherche Midi. Le livre s'appelle Christophe Dominici, bleu à l'âme. Le père de Christophe y a ajouté une lettre adressée à son fils. Jean Dominici, invité d'RTL Soir, bonsoir et merci d'être avec nous, Jean Dominici. Merci infiniment. Je vais dire quelques mots de votre lettre pour commencer. « Mon fils, tu me manques beaucoup. Pendant que je suis en train d'écrire ce petit mot, il me tombe dessus nouvelle sur nouvelle. Le Conseil de Paris a voté en faveur d'un hommage qui consisterait à donner ton nom à un stade de la capitale. Tu vois, c'est ça ma vie depuis ton départ. Apprécier tout ce qui est positif, un hommage, un mot gentil, un sourire. Cela m'évite de revenir inlassablement à ce matin du 24 novembre. » Ce sont là donc quelques mots de cette très belle lettre écrite à votre fils. J'ai envie de vous demander, vous déjà, comment vous allez aujourd'hui, Jean Dominici ?
Dur. C'est dur. C'est dur parce que il nous manque beaucoup. Mmh. Et tous les jours, il y a quelque chose qui nous le fait voir, au moins des photos, des mots gentils, des gens qui nous appellent. C'est dur.
Des hommages, des mots gentils, il y en a eu beaucoup après l'annonce de la mort de Christophe. Il a été célébré par le président de la République, à l'Assemblée, par le ministre de l'Éducation, par les amoureux du rugby, connus ou anonymes. Est-ce que vous pensez que Christophe aurait pu imaginer qu'il était aimé à ce point ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas, et puis il était tellement simple. Pour lui, c'était naturel. Tout ce qu'il faisait, c'était naturel. Il pensait qu'à faire du bien. Il pensait qu'à aimer les autres. Il s'aimait.
Il se pensait seul, Christophe ?
C'est difficile à dire, parce que, surtout à la fin, je pense qu'il s'est senti seul. Mais après, bon, il voulait revenir dans le rugby. Ça s'est mal passé, ça y a fait du mal, mais il était malade. Mmh. Il était malade, et le problème, c'est que on s'en est pas rendu compte assez vite, quoi.
Quand vous dites qu'il voulait revenir dans le rugby, c'était son rêve, son projet, celui de reprendre le club de Béziers. C'est un projet qui a capoté, on l'a dit, effondré, humilié par cet échec. Ne pas être arrivé à atteindre cet objectif qui lui tenait tellement à cœur a été vécu comme un énorme échec, bien plus cuisant qu'un échec sportif. Ça, c'est son ami Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, qui le dit. Vous pensez que cet échec-là, ça a pu être le déclencheur de tout ?
Je pense pas. Il était fatigué. Il travaillait beaucoup. Oui. Il avait une grosse entreprise. Il ne dormait pas beaucoup. C'est tombé pendant le Covid, alors... ses affaires, il travaillait beaucoup avec la Chine, mais je pense pas que c'est ses affaires qui l'ont trop inquiété, parce qu'il était trop bien organisé, il avait de grosses équipes, il avait beaucoup de bonnes personnes avec lui, et c'était un patron, un vrai.
Il faisait beaucoup de choses, il faisait du vin aussi notamment, il faisait beaucoup de choses, Christophe Dominici. Christophe, c'est 4 victoires dans le tournoi des 6 nations, il faut le rappeler, c'est 5 titres de champion de France, 67 matchs en équipe de France, et un essai qui restera dans l'histoire du rugby. On est en 99, demi-finale de la Coupe du Monde à Twickenham, les Bleus battent la Nouvelle-Zélande 43-31.
Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond, c'est bien fait.
C'est bien joué, Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon.
Essai de Christophe Dominici, c'est un génie.
Essai extraordinaire.
Extraordinairement bien joué de la part de Fabien Galthié, coup de pied dans la boîte, comme l'on dit. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit. Que c'est bien fait.
Et au commentaire, c'est Christian Jean-Pierre et Bernard Laporte.
Bernard était là.
À l'époque, ouais. C'était à la fois un immense champion, Christophe Dominici, une fragilité extrême qui a connu des dépressions, qui a connu des très bas. Pourquoi, selon vous, n'a-t-il jamais réussi à prendre le dessus sur ses démons, Christophe ?
Je sais pas. Je pense que sa sœur,
Pascal,
ouais,
votre fille.
Et puis, quand il baissait un peu d'intensité, pour lui, c'était une défaite. Et là, il a baissé, il se sentait plus de revenir. Il manquait de force et je pense que... Mais après, où je suis en colère, c'est qu'on pouvait le sauver.
Qui n'a pas fait ce qu'il fallait ? À qui en voulez-vous ?
On
n'a
pas fait ce qu'il fallait. Même nous. Je me le reproche. Mais après, franchement, quand il est parti, il s'est senti libéré, je pense. Parce qu'il souffrait. Et nous, derrière, on souffre autant que lui. Mais après... Bon, par contre, il est toujours là. J'ai toutes ses équipes, son personnel, vivent avec lui. Il est avec eux, il est toujours avec eux. Ils sont là pour le soutenir, pour soutenir l'entreprise, pour que. Mais c'était pas un patron, c'était un ami. Et quand il s'est senti un peu baissé, je pense que c'est là qu'il a. Après, le jour que ça arrive, pour moi, enfin, on ne connaît pas encore la vraie histoire, mais je veux la connaître. Mais
vous ne croyez pas à la thèse du suicide ?
Pas du tout. C'est pas Christophe. Christophe, c'était... Premièrement, il aimait trop ses filles. Il nous aimait trop, nous. Il aurait laissé au moins. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation, surtout dans les affaires et dans tout. Il faisait tout. Il avait des bonnes personnes avec lui, mais il faisait tout facilement. Et aujourd'hui, il faut qu'on continue ses affaires et on découvre des choses qui faisait facilement, quoi.
Il était malade, Christophe. Certains de ses amis ont dit qu'il avait des bouffées délirantes,
oui.
Qu'il se croyait poursuivi par des hommes.
Il a eu des bouffées délirantes. Moi, je pense que c'est là qu'on aurait dû le soigner.
Mais vous le saviez ? Vous en aviez conscience ?
Non. Ces bouffées délirantes, je pense pas. Non. Moi, je pense que c'est trop facile aujourd'hui. Ces gens-là, ils sont mal soignés. Moi, je pense que pour les petits et autres, c'est des numéros et puis c'est tout. Voilà. Moi, je pense que si Christophe aurait pu être sauvé. Moi, j'ai du regret parce que je devais monter, j'ai pas pu.
Vous deviez aller le voir le week-end précédent.
Voilà.
Et vous le racontez dans la lettre, vous aviez une rage dedans, donc vous n'avez pas pu y aller.
Alors je l'appelle, il me dit non, papa, ça va bien, ne t'inquiète pas. J'ai dit Christophe, tu dors quand même la nuit parce que c'était le plus important. Tu dors ? Il me dit oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu veux que je monte ? Non, je t'appellerai. Je dis je monte, mais j'étais prêt à monter. Le lendemain, je montais.
Vous avez évoqué, Pascal, votre fille, tuée dans un accident de la route à 18 ans. Christophe en avait alors 14. Je l'aimais plus que tout, disait Christophe Dominici de sa sœur. Elle est là, sa fêlure, en fait, vous pensez ?
Elle est.
Sa fracture, sa fêlure, c'est ça le point de départ de sa fragilité ?
Le problème, c'est qu'il n'en a pas parlé de suite. Il s'est renfermé. Il s'est renfermé, puis sa sœur, c'était sa mère. C'était sa mère, il a perdu sa mère. Parce que nous, on travaillait beaucoup. C'est sa sœur qui l'a élevé. Quand il avait 14 ans, il avait 24 ans. Mmh. Et sa sœur, elle était comme lui. Elle avait le même que... Le penser qu'à la famille, le penser même pas à partir de la maison, le penser qu'à s'occuper de ses grands-parents qui étaient là avec nous, de Christophe, c'était son... il a perdu sa mère. Mmh. Et là, je pense que... Parce que surtout, chaque fois qu'on le voit, quand il fait ça, il parle à sa sœur.
Quand il a levé les yeux au ciel, voilà. Après des essais,
il
notamment...
Il parle tout le temps à sa sœur.
Je voudrais qu'on écoute les mots qu'a eu Joe Rococo, quelques jours après la disparition de Christophe. Rococo, c'est un ancien All Black, un ancien joueur de cette équipe de Nouvelle-Zélande. C'était dans On refait le sport le 29 novembre dernier.
L'histoire retiendra toujours nos matchs contre la France. La plupart des Blacks, et je suis certain la plupart des supporters, n'oublieront jamais ce nom. Car c'était toujours ce nom qui faisait des ravages dans notre équipe, qui marquait des essais dans des matchs couperets. Quand on l'imagine, quand on entend ce nom, on entend French Flair.
Quand on entend Christophe Dominici, on entend French Flair. Il avait conscience d'être ça aussi, d'être admiré par ses pairs, d'être un grand du rugby ?
Non. Non, il avait gardé sa simplicité. Christophe, dans la rue, on se promenait, on allait à la gare, on prenait le train. Il y avait du monde comme ça qui venait pour une photo. Il prenait des photos avec les enfants, avec tout le monde. C'était... Il était... Non, il était simple. C'est pour ça qu'il était beaucoup aimé.
Vous pensez qu'il est enfin apaisé là où il est aujourd'hui ?
Oui. Ouais. Je pense. Et puis... Comme il était beau quand... Quand il était il a apaisé tout le monde, tous ses amis qui sont venus le voir, tous ses amis de Toulon sont montés après le voir. J'ai dit, venez le voir, comme il faut le voir comment il est. Et tous les gens sortaient apaisés. Il était beau, il était bien. C'est pour ça que je dis, s'il avait voulu se suicider, premièrement, c'était pas à cet endroit, il avait qu'à aller sur la route se faire écraser, ou sous un train, n'importe où. Il était même pas marqué, rien. Il est tombé sur le dos, je pense qu'il a pris un coup sur le dos. Et voilà.
Pour vous, c'est un accident ?
Pour moi, c'est un accident. Et aujourd'hui, on n'a encore pas le résultat de l'enquête, ça me prend là, parce que je voudrais savoir.
Qu'est-ce qui vous fait tenir, vous, aujourd'hui, Jean Dominici ? C'est vos petites filles, Chiara et Mia ?
Ah ben oui. Ah oui. Aujourd'hui, c'est pour elles qu'on se bat. C'est pour elles et c'est pour... On espère tenir au moins jusqu'à leurs 18 ans pour les voir voler. Il y a Chiara ressemble beaucoup, beaucoup à son père. Aussi, comment je pourrais dire, elle pense qu'à une seule chose, elle a 10 centimes en poche, c'est d'acheter un petit cadeau à son papy, à sa mamie, à quelqu'un. Elle est toujours en train de penser à faire des petits cadeaux, ça c'était Christophe. Christophe, il pouvait pas venir à la maison sans nous porter quelque chose.
Il paraît, vous dites dans la lettre, que vous lui parlez beaucoup.
Ouais.
À Christophe.
Ouais. On se parlait, ouais. Mais là, j'ai pas... Vraiment... Je l'ai vu fatigué, mais je pensais pas. Non, le problème, c'est qu'il est parti. Et voilà, il est parti, et voilà.
J'aimerais finir avec quelques extraits de votre lettre, Jean Dominici. Aujourd'hui, mon Christ, mon chéri, tu n'es plus là physiquement parmi nous, quand tous les objets, les sons, les discussions ne parlent que de toi. Mais je me dis que tu es paisible, tu te reposes enfin, tu ne souffres plus. Même si elle est totalement irrationnelle, je m'accroche à cette pensée. Quoi faire d'autre ?
C'est vrai. Pour moi, il se repose, il est bien. Et puis il est là, on le voit. On le voit continuellement. C'est ma femme, elle le dort avec. Elle est toujours... Il a laissé un message sur quelques temps avant sur le répondeur de la maison. Et elle se le passe, ce message, 2-3 fois par jour. Moi, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas entendre sa voix. Même quand il parle, qu'il repasse des émissions, je ne peux pas le voir. Bon, après, nous, on va continuer. On va continuer, on va faire beaucoup de choses. Et on va essayer de le faire vivre longtemps.
Merci beaucoup, merci infiniment Jean-Dominici d'être venu dans RTL Soir. On pense à vous, on pense aux filles de Christophe, on pense à Chiara et Mia, on pense à sa maman aussi, Nicole. Christophe était consultant ici à RTL, il était unanimement apprécié, c'est important de le dire. Qu'on le connaisse personnellement ou pas, nous étions très nombreux à l'aimer, votre fils Christophe. Christophe Dominici, Bleu à l'âme, publié donc aux éditions du Cherche Midi. Merci d'être venu nous parler de lui ce soir.
Je peux vous dire quelque chose ? Il est remonté parce que c'était RTL. Il devait venir à la maison pour qu'on continue à le soigner. Il a voulu remonter pour faire les matchs de... parce que c'était RTL.
Parce qu'il était là le week-end avant le drame.
Ouais, c'était pour vous. Il est remonté pour ça. Parce qu'il adorait cette radio. Il vous adorait tous. Moi, je suis venu quelques fois, mais pas là. D'autres. Et voilà. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. On pense à vous tous très fort. On est avec vous. Merci beaucoup, Jean-Dominici, d'être venu ce soir dans RTL Soir. À tout de suite.
RTL Soir. À suivre dans RTL Soir.
À suivre, Le Monde tel qu'il est, réaction à chaud sur le Castex du soir, la conve du jeudi, comme aurait dit Eugène Saccomano à l'époque. Et puis on se demandera s'il faut légaliser le cannabis récréatif. Ce serait une lâcheté, a dit Gérald Darmanin tout à l'heure. On verra ce qu'en pensent nos débatteurs Virginie Le Guay, Aude Rossignol, Rocaille Diallo et Gaspard Kanzer. Il est 19h.
RTL Soir, Thomas Soto.
Et Alexandre de Saint-Aignan pour le journal. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Ce soir, on retient une surveillance renforcée dans 20 départements, mais pas de nouveau confinement, en tout cas pour l'instant.
Lors de la conférence de presse du Premier ministre, un nouveau traitement contre le coronavirus a également été présenté. On vous en parle dans un instant. Pour la première fois, l'assurance AXA, condamnée en appel, a indemnisé un restaurateur fermé à cause de l'épidémie. Gérald Darmanin relance la guerre contre les trafics de drogue à Marseille. Le choix de l'hydrogène, technologie du futur, pour remplacer les carburants fossiles. Et puis le ton monte chez les Girondins de Bordeaux, alors que Lille vient de débuter face à l'Ajax en Ligue Europe.
RTL Soir.
Toute l'Île-de-France, une grande partie des Hauts-de-France et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi les départements du Rhône, de la Drôme, de la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et enfin l'Eure-et-Loire. 20 départements sont dans le viseur du gouvernement. Surveillance renforcée, pas de nouvelles restrictions pour l'instant. Le Premier ministre donne rendez-vous dans une semaine.
J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus en vue d'inviter sans attendre tous les habitants à la plus grande vigilance et d'envisager dans toute ou partie de ces territoires des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. Nous ferons un point au terme de ces concertations la semaine prochaine et nous déciderons alors si et seulement si la situation continue à se dégrader. Nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars.
Et parmi les annonces du Premier ministre ce soir, également l'ouverture de la vaccination pour les plus de 65 ans. Ce sera à partir du début du mois d'avril.
De son côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, fait savoir que 35 000 Français ont été vaccinés aujourd'hui avec le vaccin AstraZeneca. C'était le premier jour chez les généralistes. C'est 3 à 4 fois plus que le rythme habituel grâce à ce début de vaccination des 50-64 ans chez le médecin du coin.
Oui, et puis il n'y a pas seulement le vaccin. Une nouvelle arme contre le coronavirus a également été présentée. Un traitement déjà utilisé dans 83 centres hospitaliers. Virginie Garin, il s'agit d'une nouveauté thérapeutique, des anticorps monoclonaux.
Alors, nous fabriquons nous-mêmes des anticorps monoclonaux. Notre organisme en produit pour neutraliser des virus, les empêcher d'infecter nos cellules. Mais parfois, notre système immunitaire met un peu de temps à les produire. Donc, les laboratoires ont fabriqué des anticorps de synthèse et il est possible de les injecter en perfusion à un malade de la Covid. Alors, il faut le faire assez vite, dans les 5 jours après l'infection. Et ça va permettre d'éviter les formes graves, d'éviter les fameux orages de la deuxième semaine qui conduisent parfois, malheureusement, en réanimation. Alors, plusieurs études ont montré de bons résultats. Ce traitement a été administré à Donald Trump. Il a obtenu en France une autorisation d'urgence. Il va commencer à être utilisé donc dans certains hôpitaux. Étant donné le coût entre 1 000 et 2 000 euros la dose, le traitement sera proposé à des personnes à fort risque de plus de 80 ans ou de plus de 70 ans avec des comorbidités ou des personnes sous chimiothérapie, des transplantés. C'est le premier traitement qui montre une certaine efficacité contre le coronavirus.
Voilà, c'est plus clair. Les explications de Virginie Garin pour RTL. Une nouvelle qui donne de l'espoir à de nombreux restaurateurs. Pour la première fois, AXA vient d'être condamné en appel à indemniser l'un d'entre eux. L'assureur refusait de le faire jusqu'à présent en invoquant une clause particulière dans ses contrats. Mais la cour d'appel d'Aix-en-Provence en a décidé autrement. AXA va devoir dédommager un restaurateur marseillais, Hugo Hamelin.
Ouais, ces restaurateurs ont eu le nez creux puisqu'ils avaient contracté une assurance leur garantissant des indemnités en cas d'épidémie. Alors c'était peu probable il y a quelques années quand ils ont signé le contrat. Aujourd'hui c'est clairement leur assurance vie. Mais comme bien souvent, il y a pour cette clause une petite astérisque. Elle ne fonctionne que si votre établissement est le seul dans votre département à avoir été fermé pour cause de pandémie. Une clause abusive a démontré Maître Tercian, l'avocat de cette restauratrice marseillaise.
Ça veut dire en deux mots que AXA dit, je veux bien vous garantir pour épidémie à condition que cette épidémie ne frappe que votre établissement, ce qui est non seulement illogique, mais impossible, et c'est ce qu'a dit la Cour d'appel.
Cette décision devrait faire jurisprudence alors qu'une centaine de restaurants, mais aussi de golf, d'hôtels ont engagé cette même procédure contre l'assureur AXA. Un combat qui a duré plusieurs mois pour Élodie, la patronne de l'Espigoulier, ce restaurant du Vieux-Port.
C'est un soulagement pour nous et je pense aussi pour les autres restaurateurs. On a souscrit un contrat qui prévoit une indemnité en cas de perte d'exploitation due à une pandémie et le fait qu'on puisse y prétendre, selon le juge, c'est vraiment une très bonne chose.
L'assureur peut encore se pourvoir en cassation, mais prépare surtout à casser sa tirelire car 15 000 restaurateurs ont signé ces dernières années ce type de contrat d'assurance.
Les explications d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Gérald Darmanin en mission reconquête à Marseille. Le ministre de l'Intérieur est sur place après avoir promis un renfort de 300 policiers. Objectif affiché, la lutte contre les trafics de drogue dans la deuxième ville de France. Gérald Darmanin qui joue les gros bras comme de nombreux ministres de l'Intérieur avant lui. En tout cas, il n'est pas venu les mains vides, Étienne Baudu.
Ah non, la corbeille est bien garnie, hein, mais attention, petit bémol, hein, ce sont 300 policiers, mais sur 3 ans. Or, ironisé un gradé, d'ici là, il y aura l'élection présidentielle, donc méfiance. Malgré tout, le ministre de l'Intérieur confirme l'affectation des 100 premiers.
Dès hier, plus d'une dizaine d'effectifs sont arrivés, notamment ici, dans ce quartier de Marseille. Et ils vont s'échelonner essentiellement jusqu'au mois de mai, puisque c'est les sorties d'écoles de police qui arrivent. Et sur ces 100 policiers supplémentaires, 75 seront envoyés sur la sécurité publique, le harcèlement des points de deal, à travers les excellents résultats qu'a notamment la police marseillaise depuis l'année dernière, et ici à Marseille, et puis 25 en investigation, donc en police judiciaire.
Alors le discours, comme toujours, est martial, hein, harceler les dealers, frapper les trafics au cœur et au porte-monnaie. Rudy Mana du syndicat Alliance n'est pas dupe, Gérald Darmanin est ici aussi en opération communication, mais ça ne le gêne pas tant que les policiers sont considérés.
Quand on nous donne ça effectif, quand on nous refait des locaux, quand on nous donne des véhicules neufs, ça ne peut que redorer le blason des policiers et ça ne peut que redonner de la fierté aux policiers. Le métier est extrêmement difficile, les cités sont extrêmement dangereuse. Si au moins on est traité d'une manière décente, avec une considération de la part de notre ministre, on ne peut être que satisfait de ça.
Gérald Darmanin qui évite l'aller-retour dans la journée. Il reste à Marseille et sa région 3 jours complets.
Étienne Baudu à Marseille pour RTL.
Je suis innocent et je n'ai rien à craindre. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien contre moi. La toute première réaction de Gérard Depardieu, mis en examen pour viol et agression sexuelle. L'acteur de 72 ans a parlé à la presse italienne. Une jeune comédienne accuse Depardieu d'avoir abusé d'elle dans son hôtel particulier en 2018. L'enquête, d'abord classée, a finalement été reprise par un juge d'instruction. Petite pause et dans un instant, survivre au coronavirus grâce à du jus de carotte. Quand les sectes surfent sur la crise sanitaire, c'est particulièrement dangereux, c'est à suivre donc.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
19h09, Alexandre de Saint-Aignan pour la suite du journal. Et l'épidémie de coronavirus n'a donc pas empêché, loin de là même, le développement des sectes.
Le gouvernement a recensé plus de 3000 signalements l'an dernier, avec certaines tendances, notamment autour de la santé, du bien-être et des médecines alternatives. Marie Drillon fait partie de l'UNEDFI, l'Union Nationale de Défense des Victimes de Sectes.
On a eu des choses assez nouvelles qui étaient des personnes qui se radicalisaient, si vous voulez, simplement devant l'écran, devant des vidéos YouTube autour de domaines de la santé, autour entre autres de la Covid, d'affirmer que, par exemple, non, le virus n'est pas si méchant, ou qu'il n'y a pas de virus, ou qu'il n'y a pas de maladie, qu'on peut se soigner soi-même avec le crudivorisme, hein, c'est-à-dire qu'il faut manger cru, il faut faire des jeûnes réguliers, etc. Et après, bon, on a toute la série des anti-vaccins, anti-masques, etc. Et donc des gens qui risquent de ne pas se soigner, qui risquent d'arrêter des soins importants.
Des propos recueillis par Alice Moreno pour RTL. Autre conséquence de l'épidémie, sous la couette, pas de baby-boom. Les naissances ont même chuté de 13% en un an. Selon les chiffres de l'INSEE pour le mois de janvier, des naissances pour des bébés donc conçus au début du premier confinement.
Comment remplacer les énergies fossiles? Eh bien, le gouvernement mise visiblement sur l'hydrogène.
D'ici 2030, 7 milliards d'euros doivent être investis dans cette technologie futuriste. Plusieurs ministres étaient aujourd'hui dans le Tarn pour participer au premier conseil national de l'hydrogène. À Albi, une ville à la pointe dans ce domaine, notamment avec l'entreprise Safra qui fabrique des bus à hydrogène. Patrick Tégéraud.
Oui, et ces bus baptisés Innova, on peut déjà les prendre dans quelques villes de France. Vincent Lemaire est le président de Safra.
Nous avons des véhicules qui circulent en Artois-Gohelle, donc l'agglomération de Lens. Nous avons des véhicules qui circulent à Versailles et au Mans. Nous sommes en train de fabriquer des véhicules pour Auxerre. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à massifier les choses pour faire baisser les prix.
Car il coûte pour l'instant le double d'un diesel, mais il offre bien des avantages, surtout vis-à-vis d'un bus simplement électrique. Jean-Christophe Auguet est le directeur commercial.
Une plus grande autonomie, une plus grande rapidité de recharge. On fait le plein en 10 minutes. Alors que pour recharger des batteries, il faut aller jusqu'à 4, 5, 6 heures, etc. Donc une facilité d'exploitation semblable à celle du diesel, mais sans les inconvénients.
Parce qu'un engin à hydrogène ne rejette que de la vapeur d'eau. Jeune ingénieur, Guillaume Clastor est le pilote d'essai de ces bus zéro émission.
Je pense que c'est l'avenir, c'est l'innovation.
Est-ce que vous conseilleriez à un jeune de s'engager dans des études un peu techniques, technologiques, pour travailler justement dans ce domaine?
Oui, parce qu'on est en manque de personnel, donc il faut y aller.
Chez Safra, d'ici 2025, on espère construire 140 bus à hydrogène par an et embaucher 400 personnes.
Le reportage de Patrick Tégéraud à Albi pour RTL.
On va parler football maintenant et on va d'abord à Bordeaux avec un gros coup de gueule de Laurent Koscielny.
Alors qu'il y a un mois à peine les Girondins rêvaient de l'Europe, et bien ils sont en pleine crise, 11e au classement pour le capitaine des Bordelais. Pas la peine de chercher très loin, les responsables sont dans le vestiaire.
L'ambiance est moyenne, voire très moyenne, il faut être réaliste. Dans un groupe où il y a énormément de joueurs en fin de contrat, des joueurs qui veulent partir, il faut rester avec ceux qui ont envie de se battre, qui ont envie de donner, de progresser, de partager aussi. Et quand tu as autant de joueurs comme ça ou qui ne te donnent pas envie de travailler, de progresser, c'est difficile d'avoir des résultats. Donc là-dessus, ouais, j'ai du mal avec certains parce qu'on m'a inculqué des valeurs qui, je pense, sont très importantes dans la vie et même dans le foot. Et que certains, ben, on n'a pas eu la même éducation. Et là-dessus, ouais, j'ai un peu de mal.
Le capitaine des
Girondins. Qui a dit que les footballeurs faisaient de la langue de bois. Là,
c'est clair, c'est net. Laurent Koscielny avec Denis Grandjou pour RTL.
Foot toujours, mais sur le terrain, si vous voulez bien, avec le match de Lille en Ligue Europe. C'est en ce moment. Hein.
Ouais, 16e de finale, retour sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Les Lillois avaient été battus 2-1 au match aller, Samuel Duhamel.
Oui, c'est parti depuis 18 minutes à Amsterdam. Et ce sont les Hollandais qui mènent déjà 1-0. But inscrit par Klaassen à la 15e minute, suite à un coup franc du capitaine Tadic. Les Lillois vont devoir réaliser un véritable exploit s'ils veulent se qualifier désormais pour les huitièmes de finale. Eux qui avaient été battus 2-1 à domicile, une configuration qui ne leur laisse que 7% de chance d'atteindre le tour suivant. Petite lueur d'espoir pour Lille. Les nordistes restent sur 8 victoires consécutives à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Mais pour l'instant, c'est mal parti. Ils sont menés 1-0.
Ouais. Samuel Duhamel, on vous retrouve.
On sent bien l'absence de public. Hein.
Oui, ça c'est sûr. On vous retrouvera à 20h pour continuer à suivre cette rencontre.
Merci. Vous avez fini ou pas?
Oui, c'est fini.
Ah, bah, alors si vous avez fini, on va passer à la météo parce qu'on n'a pas fait tout à l'heure et on a envie de savoir quel temps il va faire demain déjà, Peggy. Du soleil, mais pas pour tout le monde. Hein.
Exactement, parce que si vous êtes entre le sud-ouest, le centre-val de Loire, la région parisienne, Bourgogne, jusqu'au Grand Est, là, vous pourrez vous passer de vos lunettes de soleil. On n'en aura pas besoin. Les nuages vont dominer toute la journée. Alors, quelques trouées possibles dans le sud-ouest après dissipation des brouillards dans l'après-midi. Mais dans la partie nord, ça restera chargé et humide. Les pluies seront plus faibles le matin entre le centre et la Lorraine. Dans l'après-midi, elles seront plus continues entre le centre, l'Île-de-France et le sud de la Champagne. Pour le soleil, parce qu'il y en aura quand même, il sera encore bien présent sur le nord-ouest, entre les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Il fera beau également dans le sud, au pied des Pyrénées, mais uniquement le matin. Ensuite, ça va se couvrir. Et puis, sur un large quart sud-est, Méditerranée, Corse, Auvergne, Rhône-Alpes, jusqu'en Franche-Comté. Les températures, elles vont baisser, mais elles seront encore 3 à 5 degrés au-dessus des normales. De 2 à Grenoble, à 10 à Biarritz pour le matin, 3 à Rennes et Mulhouse, 7 à Toulouse, 9 à Paris, et puis dans l'après-midi, 10 à Cherbourg, 12 à Paris et Reims, 13 à Strasbourg, ainsi qu'à La Rochelle et Tarbes, 17 à Toulon et 19 à Nîmes.
Ah, ça se rafraîchit un tout petit peu quand même. Et ce n'est qu'un début.
Et ce n'est qu'un début parce que c'est vrai que les températures vont encore baisser, mais malgré tout, on sera toujours au-dessus des normales. C'est vous dire à quel point il a fait doux finalement. Une moyenne de 11 au nord ce week-end, 14, 15 au sud, sachant que les normales sont de 9 au nord et 12 au sud. Donc vous voyez, on sera encore légèrement au-dessus. Samedi, le temps sera ensoleillé au nord et dans le sud-est, ailleurs plus mitigé, avec des averses sur les régions centrales. Dimanche, beau temps et sec, juste un petit peu plus nuageux sur l'ouest. Et puis retour d'un beau soleil pour tout le monde début de semaine prochaine avec des températures encore en légère hausse.
Ah, donc ça repart dans le bon sens à partir de lundi.
Oui, mais ce ne sera pas aussi doux que ce qu'on a vécu ces deux derniers jours.
Voilà, ça peut pas, tous les jours ne peuvent pas se ressembler, hein, sinon vous aurez
du boulot.
Oui,
ouais, c'est vrai.
C'est un petit message automatique. Merci beaucoup à vous, Peggy.
Il y a
un an et un siècle.
Il y a un siècle.
Il y a un an, il y a un siècle, il y a Aude Vernuccio. Aude, comme chaque soir avec vous, on prend la date du jour et on revient sur ce qu'il s'est passé ces jours-là. Aujourd'hui, nous sommes le 25 février. Et pour commencer, un anniversaire, celui de la naissance du constructeur Renault.
Et oui, c'est en 25 février 1899 que Louis Renault fonde sa société après avoir vendu son invention, la boîte de vitesse en prise directe adaptée sur un tricycle. Les premières voitures sont vendues au prix de 3000 francs. La voiture va ensuite prendre un essor phénoménal avec la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième, mais aussi les courses de voitures. Puis, en 1965, naît un modèle inédit, la R16, à l'usine de Sandouville.
C'est la création d'une œuvre que nous suivons ici. Voiture nouvelle, usine nouvelle, personnel nouveau ici à Sandouville. Il y a 15 mois, c'était encore ici une prairie. Aujourd'hui, la chaîne est prête à livrer les nouvelles Renault. La forme arrière de la R16, inspirée de celle des Vrec, surprend au premier abord. Et la forme arrière permet précisément d'obtenir le maximum de place avec notamment un coffre aux dimensions variables en fonction de la position de la banquette arrière.
On dit d'ailleurs qu'elle était la première voiture à vivre, en référence à un slogan de Renault, restée célèbre.
Restée célèbre, évidemment. On continue notre voyage dans le temps. On se rapproche un peu de nous, en 1909, puisque c'est un 25 février 1909 que les Parisiens découvrent dans le métro les tout premiers escaliers mécaniques, les escalators.
Tout à fait. Plus tard, rebaptisé escalator, justement par Otis, l'escalier roulant est au début une attraction présentée à New York, un penny pour monter. Il sera ensuite présenté en 1900 à l'Exposition universelle en France et installé dans le métropolitain parisien 9 ans plus tard.
Ça s'est aussi passé un 25 février au dans 1964. Un certain Cassius Clay devient champion du monde de boxe.
Dans la catégorie poids lourd face à Sonny Liston, on le connaît aujourd'hui sous le nom de Mohamed Ali. Et des journalistes baptisent leur reportage « Cet homme est dangereux ».
En 105 secondes, Liston est KO. On a bien vaguement aperçu une droite de Clay préparée par un crochet du gauche, mais elle a été si fulgurante. Elle a paru si peu appuyée qu'elle a semblé seulement effleurer, lécher le visage de Liston et qu'il n'est pas possible que celui-ci ait pu être abattu par un tel coup. Pourtant, Liston est tombé. Cassius Clay semble caresser l'adversaire pour mieux le mettre KO.
C'est beau, hein ? Il caressait l'adversaire pour le mettre KO. Mohamed Ali qui est décédé en 2016 à 74 ans.
C'est qui est un immense fan de Mohamed Ali.
C'est vrai.
Édouard Philippe,
ancien
Premier ministre. Et aujourd'hui, le sport et particulièrement le football a d'ailleurs son hymne.
On revient donc le 25 février 1984. Cette chanson est numéro 1 aux États-Unis.
Ça vous emmène direct au stade Vélodrome.
Exactement.
Ça.
Je Stunt hein, du groupe californien Van Halen. Tout à fait, et tous les supporters de l'OM connaissent hein, ce morceau, puisqu'il accompagne l'entrée des joueurs au stade Vélodrome.
Ça s'est aussi passé un 25 février, le premier brevet déposé pour le revolver, et c'est un brevet déposé par un certain Samuel Colt.
Colt, en 1836, la marque brandie par John Wayne et Clint Eastwood, elle a connu son heure de gloire pour la conquête de l'Ouest et dans les films de western. Vous me voyez bien, hein.
On ne tire pas
ça.
Dans le dos, Peggy. Oui,
jamais. La paille roule sur le sol.
Il y a de maille. Il était une fois dans l'Ouest, hein, évidemment, Morricone.
Incroyable. À noter que le Colt 45 est devenu le pistolet des forces armées américaines pendant trois quarts de siècle. Dans les années 90, Colt est aussi le fournisseur des troupes de combat avec les fusils d'assaut M4.
Et depuis, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'avenir? Enfin, l'histoire de tout ça.
Eh bien, le fabricant a sombré dans la faillite en 2015, plombé par des problèmes financiers, incapable d'honorer ses commandes. Le Pentagone rompt son contrat. Ce symbole de l'Amérique vient d'ailleurs d'être racheté par les Tchèques.
En tout cas, l'invention Aude a largement dépassé l'usage militaire. On dit que Samuel Colt est l'homme qui arma l'Amérique dans sa légende.
Et selon le site web gunpolicy.org, qui regroupe hein, tous les chiffres sur les armes, il y a carrément plus d'armes en circulation aux États-Unis qu'il n'y a d'Américains. 120 armes pour 100 habitants l'an dernier. Au premier confinement, puis à l'approche de la présidentielle, la vente d'armes a explosé. Près de 4 millions de demandes de vérification d'antécédents judiciaires, vous savez, reçues au FBI. Une arme, le fusil semi-automatique AR-15, a fait particulièrement polémique. Entre 2015 et 2019, il a été utilisé dans 365 fusillades et tueries de masse aux États-Unis.
Merci Aude Vernuccio. Cessez le feu et dans un instant, le monde tel qu'il est avec nos débatteurs.
Le monde tel qu'il est, c'est dans un instant sur RTL.